Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, la boîte à souvenirs,
Olivier Giraud.
Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Giraud, je suis champion olympique de hand, capitaine des experts, j'ai tout connu avec les Bleus, champion du monde, champion d'Europe, et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous, de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC. Et aujourd'hui, nous sommes avec le champion Olivier Giraud. Salut Olivier.
Salut JC.
Alors durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes grandes victoires, ton parcours, tes moments difficiles aussi, il y en a eu, tes cicatrices, pourquoi pas, l'homme que tu étais, l'homme que tu es devenu. Ton boulot est très simple, face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur, et puis au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort, dessus, un mot, une date, un moment, que tu vas nous raconter. C'est très simple, tu le vois. Comment tu te sens avant d'entamer ta boîte à souvenirs?
Bah écoute, un peu stressé parce que j'ai pas cette habitude de me confier déjà une et j'ai plutôt l'habitude de contrôler les choses et là c'est pas du tout dans le contrôle.
Oui, car tu ne sais rien de ce qui va se passer dans cette émission, mais tu vas voir, tout va bien se passer, mon cher Olivier. Ta boîte à souvenirs, c'est parti, tu peux tirer un premier papier.
Boeing 747,
j'imagine que ça te rappelle quelque chose, tu as 5 ans. C'est ça?
Ouais.
Fin des années 70, tu vis en Guadeloupe depuis ta naissance et pour la première fois, tu vas prendre l'avion. Pour quelle raison?
Je vais prendre l'avion... là tu rentres direct dans le dur. Je vais prendre l'avion parce que, comme tu le vois, c'est la première fois que je prends l'avion. J'ai 5 ans, mais c'est tout simplement parce que ma mère est en métropole depuis 3 ans. Et ma mère que finalement je ne connais pas puisqu'elle est partie depuis 3 ans et je n'ai que 2 ans et tout simplement parce que les histoires familiales sont souvent compliquées et je viens de deux univers qui fait un petit peu ma complexité je pense, c'est que j'ai un côté une famille assez aisée qui est dans les banques et la famille de mon père et une famille plutôt pauvre qui vit dans les maisons, mais très 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 heureuse, hein, mais plutôt pauvre du côté du gazon. Et j'ai un grand frère qui est 3 ans de mon aîné. Et mon frère est déjà parti parce que mes parents n'ont pas pu se marier, en tout cas.
En raison de cette différence classe sociale.
Oui, complètement. Hein, on parle souvent du racisme, mais je pense que le plus prégnant, c'est le racisme social. Et que, les grands-parents du côté de mon père sont opposés au mariage de mes parents. Et ma mère est venue... dans les années 70, à la fin des années 70, pour travailler à la poste à Boulogne-Billancourt. Et en fait, quand je prends cet avion, je ne pense pas... je pense aller voir mon frère et je ne reviens jamais.
Tu penses que c'était pour des vacances?
Ouais, on me l'annonce comme ça. On me dit, ouais, tu vas aller voir ton frère, tu vas en vacances et... Et 747, ça me ramène un truc parce qu'en fait, j'ai voyagé seul. Hein, et quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu mon grand frère et c'était incroyable. Et j'ai vu une dame que je ne connaissais pas en fait.
Qui était ta maman?
Qui était ma maman, ouais. Et qui est ma maman?
Tu es ta maman, évidemment.
Qui est ma maman toujours. Et ça a été un choc énorme parce que on parle très peu de ces choses-là. Ça a été un choc énorme parce que finalement, on avait une vie assez tranquille sur notre petite île et moi, j'avais mon rythme. Et entre mes deux familles, j'étais élevé par mes grands-parents des deux côtés et mon père. Et je suis arrivé dans déjà rien que l'aéroport de Paris, quoi. C'était énorme et tu verras, moi, je me souviens de tout. Vraiment, et des fois c'est compliqué, mais déjà j'ai pas reconnu ma mère, mais c'est surtout que j'ai vu un truc énorme, des autoroutes, et aussi des gens de couleur blanche. C'est bizarre de dire ça. C'est bizarre de dire ça parce que d'un seul coup, à 5 ans, tu prends pas conscience de ça, mais tu passes de la majorité à la minorité, ouais.
Tu vas atterrir à Paris, bien sûr, mais en tout cas, tu vas habiter Meaux, la cité Pierre Collinet. Tu ne retourneras d'ailleurs en Guadeloupe qu'à tes 10 ans. C'est vrai que ton papa, tu vas beaucoup moins le voir, forcément, par la force des choses. Et c'est donc ton frère Gérard, 3 ans de plus que toi, qui va t'élever, qui t'a beaucoup aidé, parce que toi, tu te définis comme un branleur, c'est ça?
Comme un branleur, mais je pense que surtout je me définis comme quelqu'un qui, pour avancer, n'a qu'une petite vision pour pas que le passé ressurgisse. J'ai complètement occulté le fait que je pouvais pas retourner et j'ai vécu cette vie qui était déjà pas la mienne. Et heureusement, j'ai un grand frère qui est juste un mec pour moi, la personne la plus importante de ma vie. Tout simplement parce que ma mère nous élevait seule et elle allait travailler. Et je rappelle, j'avais 5 ans, donc mon frère avait 8 ans et mon frère s'est occupé de moi toute ma vie. Il a mis de côté la sienne pour s'occuper de son petit frère. Entre le midi, c'est lui qui me nourrissait, qui me faisait les repas. Il a toujours été pour moi. J'étais un branleur. Et en grandissant, ça s'est pas arrangé parce que dès qu'il y avait un problème, c'est mon frère qui arrivait pour le régler. Et en fait, c'est avec le temps que je me suis aperçu que il y avait un mec qui était là et il s'est occupé de toi toute ta vie, quoi.
Oui, c'est avec le temps que lui aussi s'en est rendu compte. Parce qu'il n'avait absolument pas cette vision-là. On va écouter Gérard, ton frère.
C'était naturel, oui. C'est quand on en a parlé après que j'ai vu que ça comptait pour lui. Et en fait, c'était normal. Mais je l'ai pris conscience, oui, j'ai pris conscience de ça, mais beaucoup plus tard, en fait. Il a fallu qu'on en parle pour que vraiment je m'en rende compte.
C'est chaud, votre truc, là. C'est chaud, votre truc. Je suis pas considéré comme un grand émotionnel et je pense que ce qui aujourd'hui peut-être que j'en suis capable. Je suis devant vous et puis j'entends mon grand frère qui est pour parler de lui un petit peu plus précisément. On vient d'un milieu quand on est arrivé défavorisé et aujourd'hui on arrive à mettre des mots là-dessus. Mais mon grand frère c'est un HPI. Hein. Et comme ceux qui sont incompris, on l'a envoyé en CPPN, en CAP, CAP chaudronnerie, alors que c'est juste un mec avec une intelligence hors du commun, mais et que même nous, on s'est aperçu après moi, je savais depuis tout petit qu'il était spécial parce que
au potentiel intellectuel hein, pour tous les auditeurs qui nous écoutent.
Ouais. Mais avant, on savait pas ces choses-là c'est juste un. Puisque mon grand frère, c'est juste un très grand mec. Ouais.
Un très grand mec. Et un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec Olivier Giraud.
Je suis mort à Sydney.
Je suis mort à Sydney. Qui dit ça?
Daniel Costantini.
Daniel Costantini. C'est en 2001, juste avant les championnats du monde en France. Et c'est quoi le problème?
Le problème, c'est la reconstruction d'une équipe et parce que Daniel Costantini il fait après là des petits jeunes comme nous, tu vois, Hernandez, Dinard, Gilles, les Barjots ils sont toujours là, ils sont toujours forts. C'est-à-dire qu'ils sont dans notre championnat, ils nous mettent des raclés et tout et en fait la catastrophe d'Atlanta fait qu'il y a deux choix. C'est soit il continue avec cette équipe qui est peut-être l'équipe la plus fabuleuse mais la plus difficile à gérer, soit il fait appel à des jeunes et fait appel à des jeunes. Et nous, on a le poids de ces mecs-là sur le dos. On n'est pas eux, on est différents. On est plutôt les gendres bien coiffés. Eux, ils étaient explosifs, ils faisaient rêver tout le monde, hein, même dans leur excentricité. Et c'est dur, on gagne pas.
Et donc Sydney, ça va mal se passer. On en reparlera de Sydney dans la boîte à souvenirs. Mais il y a 2001, et 2001, Daniel Costantini vous dit, moi, personnellement, je suis mort à Sydney. Daniel Costantino.
Comme je leur avais dit, mort à Sydney, je ne pouvais plus jouer ce rôle aussi important, aussi déterminant, aussi capable de faire des choix à la place des joueurs. Et je leur ai dit, moi, je viens là pour vous accompagner. C'est ma dernière compétition. Vous, certainement pas. Donc, voilà. Et d'ailleurs, l'impression que j'ai eue au départ, c'est qu'ils ne me croyaient pas vraiment, quoi. En me disant, oui, on connaît Costantini, là. C'est un Marseillais, il parle beaucoup, etc. Mais en fait, il va pas changer autant qu'il le dit.
Non, il a tort. Il a tort. Daniel, quand il a sorti ces mots-là, on l'a pris comme une grande claque. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il nous sorte ça.
Et on est juste avant les championnats du monde.
Ils vont commencer. C'est juste avant que ça commence. Et là, on est honnêtement, il ne s'est pas rendu compte du traumatisme qu'il a créé à ce moment-là, mais surtout de l'électrochoc qu'il a créé à ce moment-là. Parce qu'on l'a pris au sérieux, mais on l'a tellement pris au sérieux que ça s'est vu dans sa manière de nous manager. Et Daniel, on n'en a jamais échangé après, mais sans le faire exprès, il a eu un management incroyable sur nous. Ça veut dire qu'on s'est dit, merde, le coach, il nous laisse tomber. C'est la première impression qu'on a eue. On est en France, on a une équipe moins forte qu'à Sydney, il ne croit pas en nous. Pour aller à Bercy, il faut être un minimum en demi-finale. On s'est fait juste étriper il y a 4 mois de l'autre côté du monde. Ça va être chaud. On peut être la risée aussi du handball. Et au final, cet électrochoc si vous voulez savoir où s'est créé les experts, parce que certains veulent s'appeler comme ça aujourd'hui, c'est là que ça s'est créé. C'est là que ça s'est créé parce qu'on s'est dit, on a deux choix. Soit on accepte d'être ce qu'on est depuis 4 ans, depuis qu'on a remplacé les Barjots, soit on écrit notre histoire et on s'est réunis tous les jours pour se dire on va jusqu'au bout. Et en fait, c'était le championnat du monde. Honnêtement, je n'ai jamais re-regardé une image de championnat du monde parce que je pense que c'est un des plus horribles qui ait jamais existé. Mais par contre, en termes de cohésion d'équipe, c'est le plus beau truc que j'ai vu de ma vie.
À ce moment-là, tu n'es pas titulaire dans cette équipe, il y a les phases de poule. Et puis tu vas le devenir, assez bizarrement d'ailleurs, à cause ou grâce plutôt, j'ai envie de dire à cause pour l'un des joueurs, grâce pour d'autres, un Litchi, Daniel Costantini.
Vous savez, dans la vie des équipes, des fois, il était rigolo, il était arrivé un colis de la Réunion, parce qu'on avait beaucoup de réunionnais dans l'équipe, 3 pour ne pas les citer. Et dans ce colis, il devait y avoir des trucs avariés. Et donc, André Golut, qui s'était jeté sur des litchis ou je ne sais pas quoi de la région, et il avait fait une espèce d'allergie monumentale. Donc, j'ai été obligé de compter pendant une heure, et c'était long, une heure à ce moment-là, sur Olivier Giraud. Et il a fait un match extraordinaire.
Et ce match extraordinaire, c'est face à la Yougoslavie, à Nantes. Et c'est ton acte fondateur en bleu, j'ai envie de dire.
Ouais, ça l'est, parce que en fait, Daniel, il te donnait toujours une chance de pouvoir briller. Pour dire un truc très clair sur Daniel Costantini, c'est le seul mec que je connaisse, le seul coach que j'ai eu dans ma vie, qui était capable de te dire que tu ne vas pas jouer, te l'expliquer. Et limite, à la fin, t'as envie de lui dire merci, ça n'existe pas, ce truc-là, tu vois. Et Daniel, c'était ça, tu vois. Et moi, Daniel, il avait ce truc, c'est qu'il te donnait l'équipe la veille. Donc, tu savais déjà que t'allais pas jouer. Il te dit, range ton frein, il te parlait comme ça. Et moi, j'étais en chambre avec le gros dinar. Et donc, moi, j'ai pratiquement, je me couchais un peu plus tard, quoi. Et quand je me lève au petit-déj, j'avais dormi 5 heures. Daniel, il vient me dire, voilà, elle est là, ta chance. C'est à toi de jouer. Et on a battu, et je pense qu'il s'y attendait pas, l'équipe qui nous avait étrié à Sydney en quart de finale, l'équipe qui était responsable de tous les maux de l'équipe de France. Et on est arrivé avec une rage que j'avais jamais vue depuis que je portais ce maillot bleu. Et ça a été l'acte fondateur de l'équipe de France.
Et donc, tu vas pas forcément devenir titulaire, hein, parce que tu remplaces donc ce joueur malheureux qui a mangé trop de litchi. Mais vous allez terminer premier du groupe. Le Portugal en 8e, ça passe. Qualification assez facile. Et puis en quart de finale, avant d'aller à Bercy, il faut passer par l'Allemagne. L'Allemagne qui vous avait battu justement en match de classement à Sydney. L'Allemagne qui vous était supérieure. Et là, il va se passer un truc dingue, Olivier.
Ah, il se passe des trucs juste hallucinants. Bon, j'y perds mon genou, moi, en passant. Sacrifice. Mais un match fou. Il faut vraiment que je te raconte un truc. C'est que l'Allemagne, il y avait des joueurs, ils faisaient 2m14, 2m11, 2m08. Et il y a un truc qu'on raconte pas dans le handball, c'est qui est plus important que le match, c'est le couloir. Et les Allemands, pour eux, on était personne. Réellement, pour les Suédois, nous étions personne. Ils nous regardaient vraiment avec un certain dédain. Mais là, ils nous regardaient avec un dédain, mais en plus de très très haut. On avait l'impression que c'était une équipe de cadets face à une équipe senior. Et le match, on ne lâche rien. Il est incroyable et on prend un but dans les 9 dernières secondes. Et là, c'est comme dans... C'est lunaire. Il y a des moments, t'as pas vraiment l'impression que c'est la réalité. Et Jackson fait un truc incroyable. Il y a que lui. Parce que là, il fallait faire preuve d'instinct, de courage. Et il fait un shoot qui ne devrait jamais rentrer. Il touche les deux poteaux, le gardien, il rentre. Qui nous emmène en prolongation et on bat l'Allemagne.
Jackson Richardson, il reste quelques secondes à jouer. La France est menée d'un but.
Kunze. Ah, il est tout seul. Reichmark tout seul. Il reste 20 secondes pour que la France égalise. 20 secondes pour égaliser avec Jackson Richardson, défendu par Von Behren. Jackson Richardson! Cet homme est divin! Il reste 7 secondes. Jackson Richardson, il y aura prolongation.
Et ouais. Des fois, tu sais, on regarde souvent les finales. Parce que les finales, c'est l'aboutissement de tout. Mais faut vraiment regarder, en tout cas dans le handball, ce qui se passe avant une finale. Parce que en fait, c'est avant la finale que tout se passe. Parce que c'est avant la finale que une finale, tu la gagnes parce que tu crées cette ambiance. Et Jackson, il avait ça. On avait deux joueurs qui étaient quand c'était les clutch players, comme ils disent au basket. Il y avait lui et un autre qui s'appelle Greg Anctil. Ces deux mecs, c'était eux qui pouvaient avoir le sang-froid pour pouvoir aller marquer ces derniers buts. Ouais.
Vous gagnerez en prolongation, après prolongation 26 à 23, direction les demi-finales, direction Bercy, la pression monte, demi-finale, vous passez face à l'Égypte, de 3 buts, puis la grande finale face à la Suède. Finaliste des Jeux Olympiques de Sydney. C'est quelque chose là, hein, c'est un morceau. Hein.
Ouais, déjà, faut comprendre que dans un parcours, il y a de la réussite, on ne rencontre pas toutes les équipes. C'est ça un championnat du monde. C'est tu vas devoir battre des gens très forts, mais tu ne rencontres pas toutes les équipes. Et il se passe un truc. Il y a une équipe qui, pour nous à l'époque, était impossible à battre. C'était la Russie. Et il se passe un truc incroyable, c'est que de l'autre côté, la Russie joue l'Égypte avec des Égyptiens qui vont devenir dans les meilleurs joueurs du monde cette génération-là. Et ils battent l'équipe qui, pour nous, est impossible à battre. Ils battent la grande Russie. Et donc on se retrouve à jouer la demi-finale contre l'Égypte, une demi-finale mais hyper dure à gagner. Non mais juste un truc, ça joue. Bertrand Gilles, il met deux balles dans la tête du gardien parce qu'il arrêtait tout et le gardien, il est sorti et jamais re-rentré. Lui et Patrick Casal. Et on joue les monstres sacrés, les monstres techniques. C'est-à-dire que sur le plan de la beauté du handball, de la technicité. C'est une équipe qu'on a passé plus de temps à regarder jouer, même quand on jouait contre eux. Mais ce jour-là, c'était hors de question. Ce jour-là, c'était hors de question. Et ça a été un match juste hallucinant, dans un Bercy. C'était un chaudron, Bercy. Et il se passe ce qui doit se passer, la prolongation. Mais pour aller en prolongation, il y a un mec qui fait un truc... Je te jure, aujourd'hui encore, on le regarde. Aujourd'hui encore, j'y crois pas.
Bis repetita. On est en finale des championnats du monde à Paris, 21 à 20 pour la Suède face à la France. Il reste quelques secondes.
Il reste maintenant 30 secondes, 34 secondes. La défense, Lofgren, Magnus Andersson, Lofgren. Les Suédois prennent l'avantage à 18 secondes. Bertrand Gilles avec Joël Abbati. Greg Anctil, il va nous faire quelque chose. Et Greg égalise.
Fabuleux. Les prolongations vont aider.
Prolongation. Ragnès face à Bruno Martini. Oh Bruno.
Ça y est. 30 secondes.
Tout le monde s'embrasse ici à Bercy. Tout le monde s'embrasse. Et Greg en rajoute un troisième. Comme en demi-finale.
C'est magique, des doubles champions du monde. Oh là là, que c'est beau.
Oh là là.
Le rêve.
Les premières fois que je vois comme ça Daniel Costantini pleurer. Elle est belle cette image, hein. Les petits singes qui viennent à tout le monde ici.
C'est juste une aventure fabuleuse et c'est le début de notre aventure. On vivait dans l'aventure des autres avant. Et que là, on voulait prendre notre destin en main. Si je dois te dire le seul regret, et aujourd'hui je peux le dire, j'ai 48 ans, c'est que Daniel ne soit pas resté. Parce que je pense que le management qu'il a eu avant nous, et sur ce championnat du monde, il était en train de toucher au managériat moderne. Mais sauf que Daniel, quand il prenait une décision, il revenait jamais en arrière.
Il avait décidé avant. Je suis mort à Sydney, donc je vous accompagne pour une dernière compétition. Et vous allez la gagner, cette compétition. Champion du monde en 2001. On revient dans quelques instants pour la suite de la boîte à souvenirs avec Olivier Giraud. A tout de suite sur RMC.
RMC, la boîte à souvenirs. RMC, la boîte à souvenirs. Olivier Giraud.
On est de retour sur RMC pour la boîte à souvenirs avec Olivier Giraud, notre champion olympique de hand. Olivier, tu peux tirer un nouveau papier.
Les experts.
Ah ben justement, on y est, on y arrive. D'où vient ce nom, les experts?
Il vient d'un journaliste, un très grand journaliste qui était journaliste de foot à la base. Il vient de Laurent Moisset. Laurent Moisset, parce qu'il nous a suivis, c'est peut-être celui qui nous a le mieux analysé, pas en tant que jeu, parce qu'il ne venait pas du handball, mais qui s'est intéressé, c'est celui qui a le mieux écrit sur le handball, parce qu'en fait, il s'est intéressé à la nature humaine de ces mecs un peu bizarres, et c'est lui qui a le mieux retranscrit en mots ce que nous étions. Et que le moment où il nous a appelé les costauds d'abord, parce que, comme je te l'ai dit, 2001, c'était moche, mais c'est en costaud qu'on est allé le chercher. Mais à un moment, être costaud, ça ne suffisait pas. Pendant 4 ans, on s'est aperçu que ouais, ça servait à aller chercher des médailles de bronze, mais que ça ne suffisait pas. Et le moment où on a apporté quelque chose en plus, c'est lui qui a sorti ce mot-là.
Il y a ces 4 années, et on reparlera de Claude Onesta et de son arrivée en équipe de France, entre 2001 ou 2005, où ça ne marche pas forcément l'équipe de France. Enfin, Si on a envie de se contenter des médailles de bronze. Mais vous vouliez plus. Et y a une grosse remise en question de la part de l'équipe.
Oui, très grosse. Très grosse. On accepte. Honnêtement, il y a un championnat du monde au Portugal en 2003. Et celui-là m'a marqué plus que tout. Il a vu l'avènement d'une équipe incroyable. La nouvelle équipe de Croatie avec un mec avec des cheveux longs qui joue en basket, Ivan Obalić, qui va devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, et nous battent en poule. Et en nous battant, en fait, ils se qualifient, ils auraient dû être éliminés. C'est eux qui vont être les futurs champions du monde. Et nous, on peut être champion du monde sur ce. Et pour moi, il manque quelque chose dans notre équipe, le management, les hommes. Mais ça va pas du tout, au point que cette médaille de bronze, elle rentrera pas en France. Je la laisserai sur mon lit dans la chambre d'hôtel, parce que il y a des médailles de bronze que j'ai emmenées avec moi parce que elle valait des médailles d'or, mais celle-là elle valait une médaille en chocolat, donc je l'ai pas prise parce que les médailles, moi, ce qui m'intéresse dans les médailles, c'est l'histoire qu'il y a à l'intérieur des médailles.
Et donc, cette remise en question, d'ailleurs, Jérôme Fernandez va nous en parler. Ton pote depuis très longtemps, le bataillon de Joinville, t'as même essayé de le faire venir à Massy, finalement, ouais. Il ira à Toulouse. Bref, tu le connais depuis longtemps. Et 2005-2006, il faut penser aux experts.
En janvier 2006, quand on se retrouve pour préparer l'Euro, on revendique un certain statut à notre fédération, parce qu'on a l'impression que la communication autour de notre équipe n'est pas suffisante. On leur demande en plus, on demande au directeur technique national, Philippe Bana, de nous augmenter les indemnités journalières. Et là, Philippe nous dit, OK, moi je joue le jeu, la Fédé joue le jeu, mais par contre maintenant, à vous d'assumer, à vous d'aller chercher les titres.
À vous d'aller chercher les titres.
C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. tu sais, dans les équipes, il y a toujours le syndicaliste qui va réclamer pour toute l'équipe. Et à cette époque-là, bah, le syndicaliste, bah, c'était moi. Et donc, on négociait les primes. Et c'est vrai que depuis 2001 et depuis très très longtemps, il y avait rien qui bougeait. C'est vrai que c'est toujours gênant de parler d'argent, mais on touchait vraiment pas grand-chose. Ça n'avait pas évolué depuis 15 ans. Et d'ailleurs, il va se passer quelque chose dans cette revendication. Et Philippe Bana nous dit « Pensez d'abord à gagner, et puis après on verra pour les primes. » C'est ça la vraie phrase. Et on gagne.
Et vous gagnez, nous sommes à l'Euro 2006, vous battez l'Espagne, ça se passe en Suisse, hein, 7 euros, 31-23. On va d'ailleurs t'écouter dans cette image, dans ce son d'archives, car les Bleus sont champions d'Europe.
Madame, Monsieur, bonsoir. La victoire en chantant pour l'équipe de France de handball pour la première fois de son histoire championne d'Europe. Une médaille d'or bien méritée face à l'Espagne qui s'est inclinée 23-31. Les tricolores avaient des ailes, pas prêts à se laisser impressionner par l'Espagne.
Les handballeurs français connaissaient le goût de l'or mondial. Les voici champions d'Europe pour la première fois et c'est aussi beau.
On avait rêvé de cette ambiance, on avait rêvé de ces médailles. Et aujourd'hui, c'est plus des rêves, c'est la réalité. Donc, il n'y a rien à dire, c'est le bonheur absolu.
Ça fait bizarre de s'écouter il y a si longtemps. Des fois, on a l'impression que c'est l'ORTF. Hein. T'as vu les commentaires, mais pourtant...
Et pourtant, c'était il y a 15 ans. Hein.
Pourtant, dans ma tête, j'ai l'impression que c'était hier, que c'était super moderne. Mais c'est surtout... Il s'est passé des choses pendant ce championnat d'Europe avant d'en arriver à l'expertise. On avait déjà commencé à voir les changements dans dans le jeu parce qu'on s'était approprié certaines choses, on avait enlevé certaines choses et en fait ça vient tout simplement d'un mondial avant où il fallait tout changer ou sinon c'est nous qui allons tous être changés, coach y compris, et que la remise en question d'un coach, d'un staff et des joueurs a amené à ça. Et c'était la première modification du management du handball en France. Daniel Constantini avait commencé sans le faire exprès en 2001. Il a fallu 4 ans à Claude Onesta pour le comprendre. Tu sais, quand t'es proche de te faire virer, en général, tu te remets en question. C'était ce qui était en train de se passer parce qu'il allait être viré, hein, faut le dire. En fait, il y a eu un match perdu en poule où là, il y a eu... c'est monté dans les tours parce que c'est ça, une équipe. Et qu'il y a eu l'avènement d'un homme. Et je tiens à le dire, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. On avait un gros problème défensif. Très gros problème défensif. Et on avait nos meilleurs joueurs qui jouaient dans un club, Ciudad Real. Lucas Ballot, Didier Dinard. Et en fait, Ciudad Real trustait tout. Et le coach s'appelait... le coach de l'époque de Ciudad Real s'appelait Talandou Chebaïev. Et un des plus grands joueurs qui existait. Et cette défense en piston, c'était révolutionnaire. Et le moment où Claude Onesta a accepté que Didier Dinard mette cette défense dans le système de l'équipe de France, à partir de ce moment-là, ça a été un rouleau compresseur.
C'est quoi les experts ? C'est du millimètre. Vous étiez en avance sur tout le monde. Pourquoi ? Comment ? Comment ça se traduit ?
Ça se traduit par déjà du vécu. Ça veut dire qu'on construit la victoire en perdant. C'est bizarre de dire ça. C'est comment on se relève de la défaite. Et la force des costauds, c'est qu'à chaque coup dur, on avait envie de tout s'arrêter. C'est horrible de perdre. C'est horrible. Et on est toujours resté soudés. On a toujours trouvé le fil pour pouvoir se remobiliser, y retourner. Mais par contre, à un moment, on a compris quelque chose. C'est que nous avions le talent mental. Voilà, cette abnégation... Mais il nous fallait rapporter quelques autres talents. L'expertise, c'est le mélange de tout. Et on a intégré des jeunes. On a même forcé à intégrer certains jeunes. Parce que Lucas Ballot, il aurait pu ne pas rentrer en équipe de France. Et que les joueurs, lorsque Lucas Ballot est arrivé, Claude voulait le faire jouer un petit peu dans un modèle. On lui a dit non, ce petit-là, tu le laisses. On veut qu'il joue comme... Et en fait, il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés où nous, ceux qui étaient plus expérimentés, on les laissait faire.
Et ce qui est incroyable dans les experts, c'est que on a l'impression que tout est répété, que les gammes sont répétées, que dès que vous faites une passe, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous appellera les experts,
oui.
Les experts en hommage, je sais pas si c'est un hommage, mais à la série télévisée américaine à ce moment-là qui passe,
c'était ça, ouais.
Les experts, c'est que tout, il y a une passe, tu sais qui est là. Une autre passe, tu sais qui est là. C'est ça qui est incroyable. Ouais,
ça se voyait. Alors, on voyait ça à la télé comme quelque chose de talentueux. Évidemment, il y a du talent dans l'équipe, mais tout était orchestré. Ça veut dire que lorsqu'un joueur avait la balle, et quelle que soit l'action que pouvait faire ce joueur, tous les autres bougeaient en même temps. On savait que s'il faisait ça, toute l'équipe, c'était d'autres solutions. Et ce qui faisait que ça nous faisait gagner du temps. Par exemple, sur le jeu de transition, il n'y avait pas besoin de savoir où était placé un joueur. Et si le joueur était mal placé, c'était pas normal. Et donc, tout de suite, il s'en rendait compte. Et on a pris, pendant très longtemps, avant que les autres équipes soient capables d'analyser ça, eh ben, on a pris énormément d'avance.
Alors, le seul accro des experts, c'est lors du championnat du monde en Allemagne en 2007. On est un an avant les Jeux Olympiques de Pékin. Demi-finale face à l'Allemagne et vous perdez d'un but.
Oui, parce que on s'est fait broyer. On s'est fait broyer parce que on était devenu expert dans le jeu, dans la gestion de notre groupe, mais on n'était pas devenu expert dans la gestion extérieure. On s'attendait pas du tout à ce que les Allemands allaient nous faire.
Olivier Giraud aujourd'hui fait les grandes gueules du sport, mais sachez qu'avant, il était aussi une grande gueule. Il se pointe en conférence de presse. Et voici ce qu'il dit.
Ça arrive pas souvent au handball, ça arrive plus souvent dans d'autres sports, mais on a eu ce qui se fait de plus pittoresque et de plus ridicule en termes d'arbitrage et en termes d'organisation de compétition pour mettre une équipe dans les meilleures conditions et un peu se foutre de la gueule des autres équipes, parce que c'est ça aujourd'hui. Et ces Allemands-là, avec ce niveau-là, je pense que ça va être les premiers champions du monde qui ne seront respectés par aucune équipe. Par aucune équipe. Ça veut dire que dès qu'ils vont sortir d'Allemagne, ça va être à mourir de rire parce qu'ils vont prendre des 10 buts et ils seront respectés par personne à part dans leur pays.
Ouais, c'est des mots durs.
Légèrement, hein.
C'est des mots durs et c'est des mots qui vont entraîner beaucoup de choses parce que personnellement, je voulais arrêter de jouer.
Tu vas prendre du recul d'ailleurs avec l'équipe de France.
Ouais, je vais en prendre. C'était vraiment dur pour nous tous parce que pour arriver au niveau qui était le nôtre, c'est tellement de sacrifices depuis tellement longtemps. On avait l'impression de l'extérieur peut-être que l'équipe de France était une espèce de cooptation, il y avait toujours les mêmes. Non, c'était une équipe où si t'étais pas le meilleur à ton poste, il fallait partir, même si même avec les liens d'amitié, il fallait être le meilleur pour rester dans cette équipe. On avait un niveau d'exigence tellement élevé et en fait ils nous l'ont volé. Et cette équipe d'Allemagne, on les a retrouvés l'année d'après.
Oui, on va en reparler, ne t'inquiète pas. En tout cas, dans cette période où tu décides de t'arrêter, d'arrêter ta carrière, t'as 34 ans, il y a Claude Onesta qui va te couvrir quand même.
Ouais, parce que la déception, elle est tellement grande et à chaud. Et je pense vraiment ce que je dis. Je dis non, là, c'est trop. Pour rester en équipe de France, je me suis d'abord battu contre moi-même. Après, il faut se battre pour rester en place. Il faut se battre pour essayer de gagner. Et en fait, c'est très peu de vacances parce que quand tu es en équipe nationale, c'est tout le temps. Et physiquement, émotionnellement, tu vois, 34 ans, tu te demandes est-ce que là, il faut pas arrêter quoi.
Donc tu te mets au vert tranquillement, mais les médias ne sont pas trop au courant que tu arrêtes l'équipe de France.
Parce que Claude Onesta a ce mot, on est à l'hôtel en Allemagne et il me dit écoute, prends ton temps, je vais assumer, on va dire, je vais me débrouiller avec ça et on en reparle dans quelques mois.
Et quelques mois, tu le rappelles et tu lui dis quoi?
Je le rappelle et je lui dis Claude, est-ce que t'as besoin d'un guerrier
pour
aller chercher une médaille olympique.
Voilà ce moment merveilleux, Olivier Giraud et tous les experts champions olympiques.
L'équipe de France de handball est championne olympique. La dernière médaille des Jeux de Pékin, c'est pour la France. 5 secondes et les deux coéquipiers qui s'embrassent de Magdebourg. Elle est belle cette image, la victoire de la France et le bonheur aussi des Islandais. Ils sont vice-champions olympiques, mais les champions olympiques, ils sont français avec Jérôme Fernandez déjà au milieu. Et qu'est-ce qu'il fout là, Jérôme?
Et pour terminer ces Jeux en beauté, les handballeurs ont offert à la France sa dernière médaille d'or ce matin.
Daniel Narcisse, Bertrand Gilles, Guillaume Gilles, Cédric Burdet, Didier Dinard, Olivier Giraud, Daouda Karaboué. Allez, là-haut la française.
pour la plus belle médaille possible pour le handball français.
La Marseillaise à Pékin pour Olivier Giraud et ses copains. On a entendu le commentateur, mais qu'est-ce qu'il fout là, Jérôme Fernandez ? Ah oui, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il fout là, Jérôme Fernandez ?
Eh ben, cette aventure, on l'avait vécue en groupe et pour nous, il était impossible parce que Jérôme se blesse en poule et comme pour l'escrime, c'est-à-dire que le moment où tu sors pour blessure, tu ne fais plus partie de l'équipe. Mais encore plus dur que ça, c'est que tu ne fais plus partie des médaillés. J'avais vu cette expérience de l'escrime avec les escrimeurs qui faisaient la gueule parce que leurs copains n'étaient pas médaillés et ça m'avait marqué. Et nous, on voulait voir notre pote sur le podium avec nous, tu vois. Il était hors de question qu'il rentre en France. Il est resté, il nous accompagnait, il était avec nous sur les matchs, sur les entraînements. Et on lui a dit tout simplement, mets ton survêt, quoi. Et il descend et le moment où on doit rentrer,
vous êtes dans le couloir, vous attendez pour la cérémonie de remise des médailles, vous êtes dans le couloir du stade et il va se passer quoi?
Eh ben en fait les organisateurs arrivent, des Chinois arrivent et commencent à compter, regardent les numéros et disent non, c'est pas possible, le monsieur là, il peut pas rentrer. Là tout simplement on se regarde et je dis s'il rentre pas, on rentre pas. Nous on voulait, je pensais même pas à la médaille, c'est que je voulais qu'il soit sur le podium avec nous quoi. On était la dernière. Ils aiment bien que ça se passe bien, moi je le savais pas avant les Chinois. Et donc au bout de 10 minutes ils ont craqué, ils ont dit allez il peut y aller et Jérôme est rentré avec nous. Par contre ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'ils lui ont donné la médaille, quoi.
Une 16e médaille.
16e médaille, il est champion olympique, quoi. Et ça, ça a pas de prix, quoi. Ça a pas de prix. Et pour tout dire, Didier Dina avait dit à Jérôme, si je te donnerais ma médaille. Et il n'y a pas eu besoin de lui donner. Nous, on est comme ça, on donne beaucoup les médailles. Tu sais.
Et Jérôme Fernandez s'en souvient très bien de ce moment-là.
C'est vrai que quand on est rentré au vestiaire, juste à la fin de la finale, Olivier a dit on ne montera pas sur le podium si on n'a pas 15 médailles et que Jérôme ne peut pas monter sur le podium avec nous. Et moi, j'ai dit non, mais les gars, s'il n'y a que 14 médailles, allez-y, c'est pas grave. On est tous en plan olympique et c'est ça qui compte, quoi. Et en fait, ils ont fait le forcing tous ensemble. Et pour moi, ça a été un vrai symbole, quoi. Une vraie reconnaissance de la part de mes coéquipiers parce que j'ai été champion olympique grâce à eux. Donc je les remercierai jamais assez pour ça et je crois que ça a tissé des liens très forts entre nous à vie.
J'ai été champion du monde grâce à lui aussi, hein. Donc tu vois, on se rend tout. Jérôme, c'est moi, tu vois, ce qui mon plus grand regret, c'est que l'histoire de notre équipe, elle n'ait jamais été racontée. On raconte que nos médailles, mais mon plus grand regret, c'est que l'histoire humaine de cette équipe n'ait pas été racontée parce que c'est des hommes fabuleux. Connaître Jérôme Fernandez, pas le buteur, mais le bonhomme Jérôme Fernandez, c'est le mec le plus empathique, le plus gentil, GG, et il l'est encore aujourd'hui. Et moi, c'est ces hommes-là qui m'ont motivé à rester dans cette équipe.
La boîte à souvenirs avec Olivier Giraud, ce n'est pas encore tout à fait terminé car nous allons maintenant sortir de la boîte.
RMC, la boîte à souvenirs. RMC, la boîte à souvenirs.
La sortie de boîte.
Les proches qui ont participé à cette émission ont quelque chose parfois à te demander. Une question maintenant de Daniel Costantini.
Salut Olivier, je suis ravi que RMC te consacre une émission. Franchement, tu le mérites. Et puis, moi, je me souviens du service que tu as rendu à ce média, donc c'est normal qu'il ait pour toi de la plus haute considération. Alors la question que je voudrais poser, c'est que deviens-tu ? Voilà, parce qu'on va parler de toi au passé, ce que tu as fait, de brillant, etc. Moi, je n'oublie pas que tu as été un très bon président de la Ligue nationale de handball, de la Ligue professionnelle, qu'ensuite tu as eu des velléités au niveau de la fédération, mais là, bien sûr, tu t'es rendu compte que de la coupe aux lèvres, il y a vraiment une grande distance. Donc j'ai envie de te demander, que deviens-tu ? Parce que je ne suis pas inquiet pour toi, parce que je sais que tu as tellement de cordes à ton arc. Et je voudrais te dire, est-ce que tu ne te contentes pas de progresser dans ton handicap de golf ?
Si, aussi, parce
grand golfeur, Olivier Giraud. J'ai eu la chance de partager quelques parties avec toi, grand golfeur.
En fait, le golf, il faut y jouer pour pouvoir. Moi, pour tout te dire, quand j'ai commencé à jouer au golf en Miami, on m'y a forcé. Hein. C'est-à-dire que je considérais que c'était pas un sport. Donc, je vais pas essayer de convaincre les gens, mais allez juste essayer. Et puis après, on peut juger une fois qu'on a jugé, une fois qu'on on y a participé. Que répondre à Daniel? Plus que je n'ai dit avant, se dire que j'allais le faire, j'allais d'une manière ou d'une autre faire un grand manifeste de ce que j'ai dans la tête sur le sport français, et que aujourd'hui j'ai fait partie d'une équipe qui, malgré elle, a été dans la lumière par ses résultats. J'ai été à l'opposé de ce que je suis réellement. Moi, je suis plutôt quelqu'un, j'adore la radio. Parce que j'aime pas qu'on me voit, en fait. J'aime le travail dans la discrétion. J'ai été un joueur comme ça. J'étais un joueur de l'ombre. Moi, je veux participer évidemment à l'essor du sport, plutôt en tant que conseil dans la compréhension de tout l'écosystème. C'est pour ça que je suis retourné faire des études également et aider le sport français à prendre sa réelle place.
Merci beaucoup, Olivier Giraud, pour cette boîte à souvenirs.
Merci à toi.
Merci infiniment de t'être confié comme ça sur RMC. Un grand merci également à toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission. Pierre Amiche, notre producteur. Merci Pierre pour ton travail. Et notre réalisatrice, Suzanne Folly, notre journaliste, Arthur Perrault. Olivier, tu as débuté cette émission. C'est à toi de la clore. Face aux auditeurs, tu as quelques secondes. Tu leur dis ce que tu veux. Merci encore, Olivier.
C'est compliqué de conclure pour moi sur une partie que j'ai toujours cachée. Et quand j'ai dit tout à l'heure que je voudrais qu'on connaisse la vraie histoire de l'équipe de France, pour connaître la vraie histoire, il faut connaître l'histoire des hommes. Moi qui suis plutôt discret, j'espère n'avoir ennuyé personne, surtout. Je serai plus moi-même maintenant quand je parlerai, puisque il y a une partie de moi qui va être dévoilée, donc je pourrai plus la cacher. En tout cas, voilà, j'ai pas trop grand chose à dire parce que j'ai pas l'habitude de me livrer. En tout cas, merci d'avoir écouté.
RMC, la boîte à souvenirs.